Francis Wolff, vous êtes professeur de philosophie, vous venez de publier un livre Pourquoi la musique? Alors pourquoi l'avez-vous fait?
Alors, je l'ai fait pour évidemment un certain nombre de raisons. D'abord, la première, c'est qu'il me semble qu'un philosophe, à défaut de pouvoir se guérir de ses passions, doit tenter d'en faire un objet de raison. C'est en tout cas ma conception de la philosophie. Et puis, voilà, j'ai toujours été passionné de musique et par conséquent, je me suis dit qu'un beau jour, et le jour étant, et me semblait venu, d'en faire un objet philosophique. Enfin, la gageure a été pour moi d'essayer de ne rien abdiquer de ce que je considère être la philosophie et l'exercice philosophique d'un côté et ce que je considère être la musique de l'autre, c'est-à-dire l'expérience musicale. Le grand écart que j'ai essayé de faire, c'est de maintenir l'exigence à la fois conceptuelle et argumentative de la discursivité philosophique d'un côté, sans rien lâcher là-dessus, et d'autre part, ne rien lâcher sur l'expérience que tous, ou presque tous, nous pouvons faire de la musique, de n'importe quelle musique. Et donc, de ne pas vouloir d'emblée y projeter, a priori, des concepts, des théories, en allant chercher chez tel musicien, telle théorie, en plaquant, ce qui se fait la plupart du temps, un discours à la place de l'expérience musicale. Et par expérience musicale, j'entends quelque chose de tout à fait simple et presque universel, c'est-à-dire l'expérience, une certaine expérience sonore qui a pour effet étrange de pouvoir nous faire chanter, danser ou pleurer. Voilà, et donc c'était un peu l'objectif de ce livre médité depuis assez longtemps, enfin plus d'une dizaine d'années.
Vous parlez assez peu dans le livre de votre rapport personnel à la musique quand vous étiez petit. Il y a quelques petits passages où c'est le cas. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple quand même?
Alors, d'abord, en effet, j'en parle peu, mais j'en parle un peu quand même. J'essayais, entre autres, pour éviter la sécheresse d'un discours qui soit entièrement de type conceptuel ou argumentatif, d'entrelarder ce discours de différents approches, y compris par moments, entre parenthèses et en italique, des notes plus personnelles et souvent sous forme de souvenirs. Alors, quels souvenirs je peux avoir qui remontent à mon enfance? J'en donnerai deux, comme ça, qui d'ailleurs je cite dans le livre. D'abord, un souvenir qui est extrêmement fort et qui est peut-être à l'origine du livre, c'est la première fois que, commençant la musique et disposant de petit livret rouge et vert qui s'appelait « Théorie musicale », j'apprenais à l'âge de 8 ans, cette théorie musicale à travers des questions dans le livret rouge et des réponses qui se trouvaient dans le livret vert, à moins que ce ne soit l'inverse d'ailleurs. Et la première question de la première année, du premier cours, était la question « qu'est-ce que la musique ?» Et la réponse était « la musique est l'art des sons ». Et je trouvais ça, à l'âge de 8 ans, tout à fait extraordinaire, et comme il m'arrive de le dire dans le livre, je ne sais pas si c'était mon entrée dans la musique, mais ça a été peut-être mon entrée dans la philosophie, parce que j'ai découvert ce que c'était qu'un exercice philosophique à la fois banal et essentiel, qui consiste à tenter de résumer en quelques mots l'essence d'une chose qui paraît l'essence, ou enfin répondre à la question qu'est-ce que d'une chose, et comme la chose en question c'est la musique, qui est quelque chose d'extraordinairement abstrait à première vue, ramassé en trois mots, ça me semblait merveilleux. Et ça a été le point de départ du livre, en prenant cette formule au sérieux, dans sa banalité, dans sa platitude même, la musique c'est l'art des sons, mais alors, non pas qu'est-ce qu'un art, qui est une question peut-être très élevée, mais particulièrement piégée, donc mais qu'est-ce qu'un son? Et voilà, et pourquoi des sons peuvent nous faire ces effets que parfois aussi forts, parfois plus forts que des paroles, alors même que à première vue, ça ne signifie rien. Alors, j'évoque d'autres souvenirs, et par exemple, je me souviens bien, en effet, n'étant pas de parents qui étaient des juifs allemands réfugiés, qui parlaient très mal, en tout cas mon père, extrêmement mal le français, qui n'avait pas eu d'éducation ni musicale, ni même culturelle particulière, je me souviens que très jeune, bien avant même ses 8 ans, alors qu'on nous avions, on nous avait acheté à ma sœur et moi un tourne-disque, je m'enfermais dans la chambre et je dirigeais de la musique légère, Van Soupé, Coppelia, Léo Delibes, enfin c'est des ballets comme ça. Et je dirigeais en chef d'orchestre parce que j'avais vu dans la télévision d'un voisin un chef d'orchestre dirigé, et je rêvais d'être chef d'orchestre, et donc je dirigeais mon tourne-disque. Voilà deux souvenirs, un d'une expérience et l'autre d'une formule qui remonte à mon enfance.
Alors, il y a aussi quelque chose de fondamental dans votre livre, qui est ce passage de l'univers sonore au monde musical et à la musique, à travers ce mythe que vous reprenez tout autrement de Platon dans le livre 7 de la République. On n'est plus là dans l'aveuglement, on n'est plus là dans l'ombre des objets, on est dans une écoute, enfin, de bruit, de vacarme, de sons qui ne sont pas distingués. Mais moi, je me suis dit, mais c'est pas le ventre maternel, ça. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Écoutez, je n'y avais pas pensé. C'est possible que c'est une assez bonne suggestion, parce que ce qui me frappe, c'est qu'en général, la philosophie, la discursivité, la théorie, le concept, semble toujours plus proche du visuel que de l'auditif, ce qui est curieux parce que la langue, ça se parle, c'est audible avant d'être écrit. Mais si vous lisez, on songe quand on parle de l'art, d'ailleurs on réduit en général l'art aux arts visuels, et on ne pense pas à l'effet que peuvent provoquer en effet des sons, mais il est possible, il est probable que la première expérience, je ne sais pas si... Je ne sais pas si le ventre maternel est une caverne, en tout cas on peut l'entendre comme ça, si je puis dire, rétrospectivement, mais il est probable que la proto-expérience, c'est une expérience purement sonore. À cela près que mes prisonniers, ils sont quand même doués de raisons comme ceux de Platon, c'est-à-dire qu'ils essaient de comprendre ce qui se passe. Et c'est à partir du moment où ils essaient de comprendre ce qui se passe, bah, qu'il y a deux itinéraires possibles. Il y a un itinéraire qui les mène des sons insensés, des sons chaotiques, de ces sons qui se succèdent, des sons du monde qui ne veulent rien dire, qui les mène à une libération de type platonicien, c'est-à-dire à comprendre de quoi les sons sont-ils la manifestation, et ça c'est cognitif, ou alors une sortie qui les mènerait vers la musique en disant non pas de quoi sont-ils la manifestation, c'est-à-dire de quelle chose sont-ils la manifestation sonore, mais qu'est-ce qui en eux-mêmes les rendrait intelligibles, qu'est-ce qui fait que le sensible devient intelligible par lui-même en tant que sensible et sans mener à autre chose que lui-même. Eh bien ça, c'est la musique. Dans la musique, les sons deviennent, en quelque sorte, l'univers sonore devient autonome. Il n'a pas besoin d'autre chose que de lui-même, et c'est ça que nous appelons de la musique.
Il y a dans votre livre des renvois à des morceaux de musique qui sont sur un site sur Internet, et il y en a 88, et il y a un morceau qui est « Trains » de Steve Reich. Vous nous dites à ce moment-là qu'il y a une différence entre la partition qui peut être belle, mais la façon dont vous l'écoutez, elle n'est pas forcément dans la beauté. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de ce morceau, de ce que ça vous fait ?
Alors oui, Different Trains, c'est un morceau de Steve Reich qui a un très fort contenu conceptuel, puisque ça a été construit ce morceau autour des trains en Europe qui menaient les Juifs dans les camps de la mort. Et donc il y a trois parties qui est avant-guerre, pendant la guerre, en particulier pendant la Shoah, et après. Et en même temps, tout le message proprement musical reprend des paroles qui sont à la manière de Reich triturées, qui fonctionnent d'une façon en jouant sur la répétition, mais une répétition motivique qui n'est jamais la pure répétition. Alors, évidemment, je ne fais pas de... Je dis évidemment, ça n'a rien d'évident, je ne fais pas de commentaires sur voilà, ce qu'on peut appeler le message philosophique ou mémoriel, ou le programme mémoriel de l'œuvre, qui est fondamental. D'ailleurs, Steve Reich a écrit quelque chose de très beau aussi sur Abraham. C'est quelque chose qui est assez difficile à trouver, parce que c'est plutôt en vidéo qu'on le trouve. Mais j'en fais un commentaire, comme de tout ce qu'a fait Reich, qui est un compositeur contemporain que j'aime beaucoup, où j'essaie de montrer que, contrairement à ce qu'on dit, ça n'est pas de la musique répétitive, puisque le fond est la répétition, et c'est en permanence la négation de la répétition qui se passe, c'est-à-dire que on entend la différence, alors que généralement dans la variation classique, c'est l'inverse, on entend un motif qui revient, là on entend quelque chose qui précède la différence et qui serait la répétition elle-même, voilà. Et c'est quelque chose qui me semble à la fois extrêmement moderne, contemporain, sans vouloir être démonstratif comme certaines musiques dites contemporaines.
Merci Francis Wolff.